Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le dictionnaire, à l'article Métèque, voici la définition proposée. Petit 1, étranger domicilié en Grèce qui n'avait pas droit de cité. Petit 2, étranger, surtout méditerranéen, vivant en France et dont l'allure, le comportement sont jugés déplaisants. Fermez les guillemets. Bonjour Denis Lachaud.
Bonjour.
Je viens de lire cette présentation car vous avez intitulé précisément votre nouveau roman Les Métèques, un livre qui vient de paraître aux éditions Actes Sud et qui met en scène une famille française dans le sud du pays qui du jour au lendemain va se retrouver confrontée à ses origines étrangères, ce qui va la mettre en danger. Mais pour commencer, que représente ce mot pour vous, Métèque ?
C'est vrai que c'est plus complexe aujourd'hui que ça a pu être dans la Grèce ancienne, je pense. Parce que dans la Grèce ancienne, voilà, ça désignait ces gens qui étaient grecs, mais pas de la cité, donc des non-athéniens qui vivaient à Athènes et qui donc n'avaient pas les mêmes droits que les Athéniens. Chez nous, il y a quelque chose d'une différence, je dirais, mais elle est beaucoup plus complexe à saisir, parce que du point de vue du droit, c'est l'égalité. Mais il me semble que du point de vue social, c'est pas vraiment l'égalité quand même. Donc c'est un terme que je trouve intéressant parce qu'il désigne vraiment l'idée de quelqu'un qui est citoyen mais pas complètement. Voilà.
J'avais l'impression que c'était un terme qui avait un peu disparu du vocabulaire.
C'est vrai. C'est un terme qui a un peu disparu, qui a connu une heure de gloire avec Georges Moustaki dans les années 70 et qui depuis, oui, a peut-être un peu disparu.
Peut-être que de votre part, le ressortir, c'est symptomatique d'une époque aussi qui revient.
Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment l'idée de mettre en évidence quelque chose qu'on a déjà connu et qui, me semble-t-il, pourrait tout à fait revenir. Ouais.
Nous sommes donc à Marseille, dans une société qui ressemble à la nôtre, mais pas tout à fait. Nous verrons sans doute pourquoi plus tard. Marseille où vit la famille Herbé, composé de deux parents et trois enfants. Et cette famille, les cinq membres, sont convoqués en urgence à la préfecture de police pour mettre à jour leur patronyme. Et là, Paul et Monia Herbé doivent reconnaître que leur nom a été modifié par les grands-parents paternels d'un côté, qui avant la guerre s'appelait Herzberg, et du côté maternel, il s'appelait Kadir, indiquant une origine arabo-maghrébine, effacé dans les deux cas par la francisation des noms. Ce qui est un coup de tonnerre pour les trois enfants, Célestin, Iseux et Rico, respectivement 20, 15 et 10 ans, parce qu'ils ont l'impression que ça remet en question leur identité. Mais qu'est-ce qui est le plus surprenant, selon vous, d'apprendre qu'ils viennent d'une autre culture ou qu'on leur a caché leurs racines comme si c'était honteux ?
Ce qui est très déstabilisant, je pense, c'est de découvrir comme ça des éléments biographiques qui ont été cachés. Et après, ça vient se mélanger à toutes sortes de données. Et par exemple, le fait que les enfants découvrent que leur mère est d'origine arabo-maghrébine, alors qu'ils vivent dans une ville où être arabe, c'est les ennuis assurés, en gros. Hein. C'est
à Marseille.
À Marseille, c'est pas très très simple, il me semble, hein, pour le temps que j'y passe, en tout cas. Oui, de vivre une vie calme et tranquille et simple quand on est arabe, c'est beaucoup moins simple que quand on est un bon blanc d'origine française.
Donc l'assimilation qui justement a pu commencer à Marseille avec les premières vagues d'immigration n'a pas réussi, selon vous?
Non, moi je pense que l'assimilation, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, mais on peut pas parler d'une, dans le cas de la France en tout cas, hein, je dirais qu'on peut pas parler d'une grande réussite, hein. Il suffit de regarder où les gens habitent. Les Arabes habitent plutôt dans des quartiers où il y a des grandes tours, et les Blancs dans des endroits où il y a des petites maisons. Ça, c'est très schématique, mais quand même.
Mais alors cet étonnement des enfants, et particulièrement on va dire des deux aînés, parce qu'ils sont suffisamment grands pour voir une différence, est-ce que ça veut dire que pour autant la question de l'identité elle passe forcément par le nom de famille ?
Non, 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 elle passe pas par le nom. En fait, j'ai eu cette idée parce que dans les années 70, la France avait encouragé la francisation. Elle avait facilité, du point de vue juridique, la francisation des noms pour tous les gens qui étaient d'origine étrangère. Et il y a eu des grandes vagues, en fait, de francisation. Alors, à la fois pour les gens qui étaient d'origine arabo-maghrébine, comme, puisqu'on en parlait, mais aussi, par exemple, pour les gens qui étaient d'origine juive et qui avaient vécu la Shoah et qui préféraient adopter cette stratégie au cas où ça se reproduirait, effacer une des pistes par lesquelles on pourrait reconnaître leurs enfants facilement. Et donc, il y en a beaucoup qui ont francisé leur nom. Voilà, donc j'ai juste eu l'idée, moi, d'inverser ça. C'est-à-dire que la préfecture propose à tous les gens qui avaient francisé leur nom dans les années 70 et après, de faire le chemin inverse. Ce que, dans les deux cas, les parents trouvent assez suspect.
Et c'est en effet le deuxième coup de tonnerre, puisque cette convocation, on voit très très vite qu'elle est tout à fait perverse, à la fois reconnaître des origines, mais surtout être obligé de les afficher, et comme si ça devenait une espèce de marqueur identitaire, de façon à faciliter une nouvelle ségrégation.
Voilà, donc ça c'est pas clair, j'ai pas souhaité clarifier cet aspect-là. Quel est l'objectif final, puisque bon, on n'arrive jamais vraiment à étudier, enfin j'ai pas suffisamment développé l'aspect évolution de la France dans cette fiction, puisque c'est pas ce qui m'intéressait, et donc on n'arrive jamais vraiment à faire le tour de cette idée. Quel est l'objectif réel? On en reste en fait à l'information elle-même et au sentiment que quand même, oui, il y a une espèce d'idée un peu perverse qui se cache derrière.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème, Denis Lachaud?
Ce qui m'intéresse, je dirais, à notre époque, c'est de mettre en évidence la fragilité de tout ça. C'est-à-dire que, déjà, l'identité, on sait que c'est une fiction, hein, qui est construite pour chacun. Et les données qui permettent de construire cette fiction sont très fragiles, puisqu'il suffit que les États décident de mettre en œuvre certaines politiques pour que tout soit chamboulé. On a vu récemment des gens qui étaient obligés d'aller prouver qu'ils étaient français dans les préfectures, justement, et pour certains découvrir qu'il y avait un doute là-dessus, alors qu'ils se considéraient comme complètement français. On voit aujourd'hui, avec le Brexit, tout un tas de problèmes qui se posent aussi autour de l'identité britannique, ou du statut des gens qui sont britanniques mais qui vivent en France, par exemple, ou des Français qui vivent en Angleterre depuis 25, 30, 40 ans. Tout ça est très fragile, en fait. Et donc, dans ce projet qui était le mien, qui était de créer une fragilité pour contraindre un personnage à partir de chez lui, j'ai décidé de passer par là.
Oui, et en effet, à partir d'une situation tout à fait plausible, vous poussez, vous, Denis Lachaud, romancier, le curseur un peu plus loin. Et vous imaginez dans ce monde que cette ségrégation, donc elle est déjà en place avec l'existence de milices policières qui font la chasse aux métèques, voire pire, comme ce qui arrive une nuit à la famille Herbé. Ce qui nous fait penser, enfin ce qui est comme un écho à ce qui s'est passé aussi avec la traque des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez l'impression aussi que notre époque donne des signes de ce retour à la haine?
Oui, oui, oui. En fait, je travaille depuis une bonne dizaine d'années, moi, sur tout ce qui tourne autour des problématiques de migration. Et j'ai été peu à peu gagné par le sentiment, en étudiant tout ça, en étudiant à la fois les politiques mises en œuvre par tous les pays européens, les conditions dans lesquelles voyagent tous les gens qui décident de quitter leur continent pour venir en Europe, et l'accueil qui leur est réservé. Le sentiment que vraiment, on file un mauvais coton en Europe et que, d'une certaine manière, j'ai perdu, moi, qui suis né dans les années 60, le sentiment que j'avais pu avoir jusque-là de vivre avec un filet, que je pouvais faire toutes les acrobaties que je voulais. De toute façon, si je tombais, il y avait un filet. J'ai perdu ce sentiment de filet. Je me suis dit, me voilà maintenant dans la même situation que ma grand-mère qui était née au début du XXe siècle. Il n'y a pas de filet, ça peut arriver n'importe quand.
Et donc, dans votre roman « C'est arrivé », en témoigne ce court extrait que je vais lire, où l'histoire est donc racontée par Célestin. Nous expliquerons pourquoi c'est lui qui prend en charge le récit un peu plus tard. Et voilà, il est dans la rue et voilà ce qu'il dit. Nous sommes page 142. Je suis soudain frappé par la foudre. Aucun arabe ne marche dans les rues de Sète. aucun noir non plus. Pas d'Algérien, de Marocain, de Tunisien, de Sénégalais, de Malien, aucun Antillais. Je quitte régulièrement l'appartement depuis 3 semaines et c'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Je transpire comme une motte de beurre au soleil. Je me revois le jour de mon arrivée par la plage, déambulant parmi les étals du marché, contournant le Mont Saint-Clair, écumant les quais le long des canaux et je me rends compte que les métèques avaient déjà disparu du paysage urbain. Fin de la lecture. Est-ce que c'est une projection, Denis Lachaud, ou une réalité déjà, cette espèce d'effacement de la diversité autour de nous et peut-être à commencer dans des villes du sud de la France?
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une réalité, mais il y a quelque chose quand même, déjà je dirais, de l'ordre d'un décalage entre le discours et la réalité. C'est-à-dire que si on écoute les discours officiels, tout va bien à ce niveau-là, c'est-à-dire que il faut continuer à faire des efforts pour que chacun puisse s'intégrer, vivre sa vie, etc. Et en même temps, il y a quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre d'une mise à l'écart dans les politiques publiques. Et de toute façon, de façon, je dirais, plus générale, le décalage qui se creuse, je trouve, entre les discours des gens qui nous gouvernent et leurs actes, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Parce que ça disqualifie peu à peu le langage, c'est-à-dire que on s'habitue peu à peu au fait que le langage ne désigne plus le réel, mais devient une espèce de coque creuse de communication en fait. Et peu à peu, on perd le contact en fait avec ce que les mots désignent, puisque les mots ne désignent plus, ils ne servent qu'à enrober quelque chose, un paquet quoi.
Et c'est sans doute aussi pour ça que ce roman, qui est en 3 parties, commence avec la famille Herbé, continue avec la famille Rossignol, et la 3e partie s'intitule Anonyme, parce que on perd son nom, on perd son identité.
Oui. L'idée pour moi, c'était aussi, dès le départ, d'essayer de permettre au lecteur d'augmenter sa surface de contact sensible, je dirais, avec l'expérience que ça peut être de partir de chez soi, pour des raisons violentes en général, et de décider de traverser son pays à pied ou en bus, de traverser toutes sortes de contrôles où on se fait rançonner, voire violenter, et d'aller jusqu'à décider de monter sur une espèce de barque absolument pas fiable pour traverser la mer Méditerranée, et tenter sa chance ailleurs, en risquant sa vie, et souvent en la perdant d'ailleurs en route. Voilà, mon but c'était vraiment ça, c'était de trouver des moyens qui sont des moyens de littérature pour permettre un contact sensible avec cette expérience-là. Parce que je trouve que ça aussi, c'est compliqué pour le citoyen européen. On est quand même pas mal bombardé d'informations sur ce sujet, mais pour autant, il me semble que c'est compliqué d'avoir une perception sensible de ce que ça représente vraiment.
Et cette odyssée, c'est celle que va vivre Célestin, et nous allons en parler dans un instant.
Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris métèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés. Des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée. Caravane d'apatrides, beau people, caravelle. Sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain français Denis Lachaud, avec qui nous parlons de ce nouveau roman intitulé « Les métèques ». Publié chez Actes Sud, un livre qui questionne la France d'aujourd'hui, ses relations avec l'identité, avec l'origine de ses habitants, une époque où à nouveau le danger rôde, à l'image de la couverture d'ailleurs où l'on voit la photo d'un jeune garçon dans un canapé, l'air abattu, les pieds dans l'eau, il y a une inondation qui a commencé et derrière lui le tableau qui représente une forêt. C'est un monde en disparition, c'est un monde englouti.
Oui, il y a une espèce de sentiment de catastrophe, je crois, dans cette couverture qui me plaisait bien. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, à plein de sujets d'ailleurs, mais peut-être surtout au niveau écologique, par exemple. C'est quelque chose qui... C'est une espèce d'épée de Damoclès dont, je pense maintenant, tout le monde a plus ou moins pris conscience. Et donc on vit dans une espèce d'époque pré-apocalyptique et chacun est obligé de développer des stratégies pour traverser cette période pré-apocalyptique. Donc ça peut aller du déni, évidemment, hein, jusqu'au combat pour que ça n'arrive pas.
Alors cet apocalypse, Célestin l'a vécu. Après une nuit tragique dont il est le seul rescapé, il doit fuir, il doit partir. Et là, lui revient en mémoire ce que lui ont raconté ses grands-parents, qui ont eu un parcours absolument incroyable, une histoire qu'on découvre par bribes, puisque juifs, ils ont échappé de justesse à une rafle, ils se sont enfuis l'un et l'autre de leur côté en forêt. Ils ne se connaissaient pas, ils avaient 10 et 12 ans. On parle d'une petite fille et d'un petit garçon. Et d'abord tout seul, puis ensemble, parce que leurs chemins se sont croisés. Dans cette forêt, donc, ils ont vécu à l'état sauvage pendant 7 ans, avant de revenir à la société, bien après la fin de la guerre, puisqu'ils s'étaient totalement coupés du monde des hommes, ils ne savaient pas que la paix était revenue. C'est une histoire inspirée d'événements réels, ou qu'on vous a raconté, ou totalement issue de votre imagination, Denis Lachaud ?
Telle qu'elle est écrite, elle est totalement issue de mon imagination, mais elle s'inspire évidemment de faits réels. Il y a, pendant la guerre, beaucoup de gens, que ce soit des adultes, des enfants, qui sont dans différents pays, réfugiés dans les forêts.
Aussi longtemps ?
Aussi longtemps, je ne sais pas, mais aussi jeune, oui. Par exemple, Aaron Appelfeld raconte ça dans son œuvre. Hein. Il était enfant, lui, quand il s'est réfugié dans la forêt. Après, ce qu'il a vécu dans la forêt, c'est totalement différent de ce que moi je raconte. Il y a pas mal de témoignages, oui, de gens qui se sont réfugiés comme ça dans la forêt.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire qui extrait deux enfants à la fois de la barbarie et qui les reconnecte avec ce monde de la nature dont nous sommes coupés ?
Bah, ce qui m'intéressait, c'est plusieurs choses. D'une part, c'est que ces deux enfants qui grandissent aient une forte énergie de survie. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'ils la transmettent d'une certaine manière à leur petit-fils, puisque Célestin, en grandissant, bénéficie de son histoire familiale du côté de son père, c'est-à-dire ses grands-parents paternels qui se sont rencontrés dans cette forêt racontent ça à leurs petits-enfants, alors qu'il ne sait rien du côté maternel. Et il me semble que il y a quelque chose de très important, en tout cas du point de vue des grands-parents déjà, et du point de vue du petit-fils aussi, à ce que ces stratégies de survie se transmettent, parce que c'est quelque chose qui les a complètement formés, et donc eux jugent, les grands-parents, que c'est très important de transmettre ça à leurs petits-enfants. Et je pense que le petit-fils, après, en bénéficie à plein d'étapes de son parcours.
Oui, parce que dès que la convocation devient dangereuse, on dirait qu'il rassemble en lui tous les réflexes de survie que ses grands-parents ont eus et qu'ils leur ont transmis. Et du coup, il se prépare. Et c'est parce qu'il est prêt qu'en effet, il peut échapper à cette nuit tragique et il part. Encore un mot sur ce parcours de vie extraordinaire, parce que de plus en plus, les survivants ne sont plus là pour nous raconter ces histoires. Est-ce que c'est là où la littérature de Denis Lachaud prend le relais, c'est-à-dire dire, écrire ce qui s'est passé, raconter cette histoire commune pour vraiment l'ancrer dans les mémoires et la passer comme un flambeau ?
Bien sûr, je pense que c'est une des fonctions de la littérature, c'est clair. L'idée de ce roman a commencé à germer pour moi alors que j'accompagnais dans un collège une femme qui s'appelle Annette Muller, qui avait réussi à s'échapper du parcours de tous les enfants qui avaient été raflés, enfants qui avaient été centralisés dans deux camps à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, puis ensuite emmenés à Drancy et après à Auschwitz. Et elle a réussi avec son petit frère, grâce à son père, à sortir de Drancy. Et donc elle allait dans les collèges et les lycées raconter ça. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais discuté avec la personne qui organisait ces rencontres dans les établissements scolaires, qui me disait que il y avait une espèce de mouvement de déprime chez tous les survivants de la Shoah qui allaient parler comme ça aux enfants parce que ça leur paraissait nécessaire, parce qu'ils aient commencé à être gagnés par le sentiment que ça revenait. Et c'était très perturbant pour eux. Et c'est, je dirais que c'est un des points de départ, oui, de, pour moi, la nécessité d'écrire ce livre. C'est de constater que même les gens qui avaient vécu ça et qui donnaient, en fait, leur temps de vieillesse à la transmission, étaient gagnés par un sentiment comme ça de crainte que ce soit en train de se reproduire, que certains signes leur indiquent que c'est en train de recommencer.
Donc c'est aussi un livre qui s'inscrit dans vos romans précédents, tels que J'apprends l'allemand, J'apprends l'hébreu, qui travaille aussi la question des origines, la question de l'autre et la question de la mémoire.
Bien sûr. Moi, j'ai le sentiment, à chaque fois que j'écris un nouveau livre, que je pars ailleurs, mais je suis pas dupe. Je me rends bien compte que j'ai, comme tous les écrivains, des obsessions, des thèmes centraux. Et il est clair que pour moi, les origines, la construction de l'identité, ce sont des thèmes qui me passionnent. Et relier ça dans ce livre-là avec l'histoire contemporaine et imagine une sorte comme ça de dystopie légère, où ça tourne mal, ça s'est construit peu à peu, mais de façon assez évidente.
Dystopie et contre-pied, puisque revenons au présent avec Célestin, qui donc décide d'abord de se cacher pour se protéger de la menace, mais surtout de fuir la France, qui n'est plus un pays de droit et de liberté, et d'aller, comme un migrant, vers l'Espagne, dont il semblerait en effet que ce soit un espace plus agréable, surtout au vu des élections qui se sont passées récemment. Donc c'est le migrant à l'envers. Ce n'est plus le migrant qui rêve de venir en France, mais le Français, ou celui qui est considéré désormais comme un métèque, qui quitte la France.
C'est ça. C'est-à-dire que il y avait aussi l'idée d'essayer de mettre en évidence le fait qu'on part pas de chez soi seulement parce qu'on rêve d'aller ailleurs. La plupart du temps, on part de chez soi par nécessité, que ce soit parce que on est en danger de mort, ou en danger parce qu'on n'arrive pas à se nourrir, ou alors parce que toutes sortes de raisons font qu'on est contraint de partir. Après, ça peut se mêler avec des notions de rêve, bien entendu, mais je pense que pour avoir parlé quand même avec beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes qui ont quitté leur pays comme ça pour venir ici, il y a quand même un fort sentiment de nécessité à partir qui les a poussés du jour au lendemain à quitter leur maison.
Alors, ce n'est pas la première fois, Denis Lachaud, que vous prenez la réalité à rebours, j'ai envie de dire. Je pense par exemple à une de vos pièces, Hétéro, qui précisément interrogeait la question de l'homosexualité à travers des personnages homosexuels, mais qui néanmoins véhiculait aussi des clichés hétérosexuel.
En fait, ça interrogeait surtout la question des rapports entre les hommes et les femmes à travers une population de comédiens uniquement masculins, mais de deux catégories. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était que sur le plateau, on ne voit que des hommes, mais que ces hommes déclarent « moi, je suis l'homme fort et moi, je suis l'homme faible », et qu'on voit bien que la différence n'est que culturelle, puisque devant nous, on n'a que des hommes.
Donc, comme ici, vous faites la migration à l'envers, et comme dans d'autres textes, vous avez pu travailler sur l'envers, ce qui vous intéresse aussi, c'est de présenter un miroir à vos lecteurs, à vos spectateurs, un miroir un peu déformé, un peu déformant, mais pour que de toute façon, on y reconnaisse bien le principal.
Oui, il me semble que dans toutes les disciplines artistiques maintenant, et de tout temps, hein, on dispose, nous les artistes, d'un ensemble d'outils qui nous permettent de rendre compte du réel ou de donner accès au réel tel qu'on a du mal à le percevoir, probablement. Ça peut être par la peinture, ça peut être par l'écriture de romans, de théâtre, ça peut être par le cinéma, même par la sculpture, je dirais. Il y a quelque chose qui permet toujours d'accéder un peu plus à la connaissance du monde dans lequel on évolue, même en faisant parfois des détours par quelque chose, par des formes qui ne sont pas des formes qui imite le réel. Quand on regarde un tableau de Picasso, par exemple, quand on regarde Guernica, ça n'imite pas le réel. Et pourtant, il me semble que c'est un tableau qui rend compte de quelque chose d'une façon incroyable par rapport à ce que peut être un bombardement.
Et votre outil, vous, c'est le mot, la phrase, le paragraphe, avec cette singularité qui est la vôtre, c'est qu'il y a toujours une justesse extraordinaire de chacun des mots. Est-ce que c'est un défi permanent que de précisément avoir une phrase juste sur une réalité un peu déformée?
Ah oui, 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 c'est un défi permanent et c'est un plaisir aussi permanent. C'est-à-dire que pour moi, le plaisir d'écrire, c'est pas juste d'aligner des informations, c'est de créer une langue qui me paraît juste, à la fois au niveau des informations qui véhiculent, mais aussi au niveau du rythme, au niveau de l'équilibre général du phénomène que va être la lecture. Donc je passe beaucoup de temps, oui, à travailler et à retravailler et à re-retravailler le texte.
Le mot, mais aussi le corps, très important, évidemment, que ce soit sur scène, que ce soit ici, parce que Célestin, il a vraiment un physique très particulier. C'est un grand jeune homme, relativement musclé d'ailleurs, parce qu'il fait du sport et il a une présence au monde. Est-ce que cette présence et ce corps peuvent se passer de mots? Je pense à ça parce que récemment, vous avez fait l'expérience artistique de danser sur scène avec un chorégraphe, sans un mot, sans une lecture, sans une note de musique même.
La performance durait une demi-heure, c'était avec le chorégraphe Amal Adianor. Et pendant à peu près 20 minutes, en effet, on danse sans mots et ni musique. La danse peut se passer de mots, en général elle s'en passe d'ailleurs très bien. Et la danse peut aussi se passer de musique, et on n'a rien inventé à ce niveau-là, ça s'est déjà fait. Maintenant, dans notre performance, la parole arrive au bout d'un moment, et la musique même finit par arriver. Donc on n'a pas été jusqu'au bout de cette radicalité, on a eu besoin aussi de faire intervenir à la fois la parole et la musique. Mais oui, tout à fait, moi je pense que la danse c'est vraiment un art aussi qui véhicule toutes sortes d'émotions et de sensations, qui peuvent aussi permettre aux spectateurs, moi c'est ce que ça me fait en tant que spectateur, de s'approcher un peu plus de ce que c'est que l'expérience de la vie.
Mais vous ne pourriez pas vous passer de mots, Denis Lachaud?
Non, je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Mais comme je ne peux pas m'en passer et que je ne m'en passe pas, c'était très intéressant pour moi d'aller fureter un petit peu ailleurs dans le monde du geste. Et ça m'a passionné, oui.
Et qui dit geste d'ailleurs ne dit pas forcément silence. Il y a du bruit. Le corps fait du bruit.
Exactement, et c'est vrai qu'on constate régulièrement quand on danse notre duo, qui s'appelle Hamouma Fan Laidem, ça veut dire je ne sais pas où je vais en wolof, que pendant ces 20 ou 22 minutes de silence pendant lesquelles on danse, il y a en fait beaucoup de bruit. Il y a le bruit de nos déplacements, et il suffit qu'on danse sur un parquet qui grince un peu et ça grince, etc. etc. Toutes choses qui sont en général effacées par la musique. Oui.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliques, dans la musique truelle des silences cacophoniques. Paris ma belle beauté, tes prétendances bousculent dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène.
Merci beaucoup Denis Lachaud.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Les Métèques, qui a paru aux éditions Actes Sud.